France Inter. Amélie Perrier. Le 6-9.
Mais que s'est-il passé pour que l'on passe, en quelques semaines, quelques jours, d'un été serein libéré à une nouvelle alerte Covid? Les indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse, le variant Delta se propage, et pour en parler ce matin, celui qui est en première ligne au gouvernement, il va répondre à vos questions, appelez le 01 45 24 7000, le ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
D'abord, des chiffres, où en est-on? La situation est-elle compliquée?
La situation est la suivante. Le variant Delta, donc ce variant qui nous est venu initialement de l'Inde et qui s'est fortement développé en Angleterre, mais chez d'autres pays également, je pense à l'Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, est apparu, vous le savez, il y a quelques semaines dans notre pays, et il est plus contagieux, 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici. Il est en train progressivement de remplacer tous les autres virus qui existaient de la souche coronavirus. Il sera bientôt majoritaire, probablement ce week-end dans notre pays. Il était pas loin de 50% hier soir. Et donc, il entraîne une augmentation à nouveau des contaminations en France et dans beaucoup de pays qui nous entourent.
Le taux d'incidence remonte.
Ça veut dire que le taux d'incidence remonte. Alors, il est beaucoup plus faible que ce qu'il était pour les Français qui connaissent bien ces chiffres-là. Nous avions atteint des 200, des 300, des 400 pour 100 000 habitants. Il est actuellement de 27. Mais enfin, ce qui est le plus important, c'est la dynamique épidémique. Et cette dynamique, elle montre que chaque semaine, il y a environ 50% de contamination en plus que la semaine précédente. Ce que nous avons connu, hélas, au démarrage de vagues passées. Ça ne veut pas dire que nous sommes nécessairement dans une vague épidémique. Nous n'avons qu'une semaine de recul et on peut toujours espérer que des bonnes nouvelles arrivent. Mais nous devons évidemment être vigilants et le plus probable étant, hélas, que le virus continue de se développer sur le territoire national.
Qui sont les nouveaux contaminés? Ce sont des jeunes non vaccinés?
Au fond, il se passe un phénomène assez proche de celui qu'on a connu l'été dernier, avec quelques différences notables. Le phénomène assez commun, c'est que, comme l'été dernier, pour l'instant, le virus touche essentiellement des personnes jeunes. Des gens qui ont entre 20 et 40 ans, et qui se contaminent. Donc, ils font peu de formes graves, mais qui sont aussi moins vaccinés que les personnes plus âgées dans notre population. À l'instar de ce qui se passe en Angleterre et en Espagne. L'année dernière, souvenez-vous, l'été dernier, on parlait de contamination des jeunes qui ne s'accompagnait pas d'impact sanitaire. Les hôpitaux restaient vides et les gens disaient, ça y est, c'est peut-être que les jeunes devraient se contaminer pour atteindre l'immunité. Moi, j'avais alerté en disant que c'était pas une bonne idée. Et dans tous les pays qui ont constaté d'abord une épidémie qui touchait les jeunes, ensuite l'épidémie a commencé à toucher les moins jeunes. La grande différence par rapport à l'année dernière, c'est d'abord la vaccination, évidemment. Nous avons vacciné plus de 80% des personnes âgées de 70 ans et plus, ce qui leur confère une protection très efficace à l'égard de ce variant Delta. Ça, c'est une première différence. L'autre différence est un petit peu moins optimiste, puisque le variant Delta est beaucoup plus contagieux que le virus que nous avions l'année dernière.
Vous dites, on est vacciné, ça nous protège. L'Institut Pasteur dit ce matin que le variant Delta est plus résistant au vaccin.
Ce que montrent toutes les études, y compris en vie réelle, c'est que le vaccin reste efficace contre les formes graves, celles qui vous emmènent à l'hôpital, qui vous entraînent des lésions des poumons, qui vous mettent KO. 94% d'efficacité contre les formes graves. Donc c'est pas du 100%, mais enfin c'est déjà une efficacité absolument remarquable contre ces formes graves. Ce que j'observe en Angleterre, par exemple, c'est que la grande différence avec les vagues précédentes, c'est qu'il n'y a plus de corrélation entre les cas graves et les cas positifs. Donc on voit une courbe de cas positifs qui est très élevée en Angleterre. Ils sont à plus de 30 000 cas par jour, là, sur les derniers jours. Et on voit une courbe des cas graves qui commence à monter, mais avec une latence de quelques semaines, et avec un rythme moins soutenu que le rythme des contaminations. Parce que la vaccination protège les personnes qui sont exposées à ce virus. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous êtes très âgé, par exemple, que vous êtes en EHPAD, que vous avez 95 ans, la vaccination, elle est forcément moins efficace que lorsque vous êtes jeune, en pleine santé, parce que vous avez un système immunitaire qui est fatigué lorsque vous êtes très âgé. Et c'est ces personnes-là aussi qu'il nous faut protéger. Mais il nous faut aussi protéger les jeunes, puisqu'il peut y avoir ce qu'on appelle des Covid longs, y compris chez des jeunes qui ne font pas forcément de formes graves. Et de façon générale, on ne doit pas jouer évidemment avec le feu, et donc il faut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire respecter les gestes barrières, mais vraiment revenir à la pratique que les Français connaissent très bien, parce qu'ils ont été très solides pendant un an et demi, le gel hydroalcoolique, le masque partout où il est indiqué, la distanciation sociale, on évite les grosses fêtes clandestines, on va brasser avec des gens dont on ignore leur statut vaccinal, et donc la possibilité qu'ils soient contagieux. Donc on recommence à faire très attention à soi, et on profite de la vie évidemment quand même, notre pays est en déconfinement depuis peu de temps, et je comprends parfaitement les attentes des Français de ce point de vue-là.
L'arme numéro un, vous le dites, c'est le vaccin. Est-ce qu'il faut vacciner les soignants? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui au gouvernement notamment.
C'est une question qu'on se pose et que les Français se posent aussi légitimement. Ils sont majoritaires dans les enquêtes
d'opinion. Est-ce qu'on doit la rendre obligatoire, cette vaccination?
Nous menons une concertation. J'étais avec le Premier ministre hier pour recevoir les collectivités locales. Un grand nombre d'entre eux se sont déclarés favorables à aller vers une forme d'obligation vaccinale pour les professionnels de soins, de santé, d'accompagnement. On parle là de médecins qui ne seraient pas encore vaccinés, même s'ils sont déjà bien couverts, de pharmaciens, d'infirmiers, d'aides-soignants, mais aussi du personnel qui est amené à travailler en établissement de santé, en EHPAD ou au domicile.
Seulement 60% des personnels en EHPAD est vacciné aujourd'hui, 40% n'est pas vacciné.
C'est trop peu, oui, c'est trop peu. Alors il nous faut convaincre, on voit que la couverture vaccinale depuis qu'on parle de cela a augmenté, on est passé de 52 à 60% du personnel des EHPAD vaccinés en l'espace d'un mois. Mais enfin, il faut que ça aille plus vite. J'ai réuni toutes les fédérations hospitalières et d'EHPAD, ainsi que les ordres professionnels, tous les 7 ordres, qui se sont engagés par écrit, qui ont signé une déclaration disant que si la situation le nécessite, on peut tendre vers une obligation. À ce stade, je le dis, aucune décision n'a été prise. Il semble qu'un consensus sociétal, politique et des instances professionnelles se dégage pour aller vers cela. Après, il faut relativiser. Ce ne serait pas une première dans notre histoire. En 1991, la vaccination est devenue obligatoire contre l'hépatite B pour tous les soignants. Quelques années auparavant, la vaccination était déjà obligatoire contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, pour tous les soignants. Moi-même, j'ai connu ça en arrivant à l'hôpital pour pouvoir porter la blouse. Donc, on a déjà des dispositifs dans le droit commun qui existent. Et enfin, j'insiste pour dire que ce n'est pas, en aucun cas, il ne s'agirait de stigmatiser des soignants. On les a applaudis, ils sauvent des vies, ils sont fatigués, ils sont voire épuisés, ils aspirent à prendre des vacances. Et je les sais inquiets de voir la remontée du variant Delta dans notre pays. Non, c'est pas une stigmatisation, c'est une protection.
Mais comment ce serait possible de le rendre obligatoire, ce vaccin? On pourrait dire à des médecins demain, vous ne venez pas à l'hôpital si vous n'êtes pas vacciné, alors qu'on manque de bras dans les hôpitaux?
Dans le dispositif légal actuel, c'est-à-dire sur les autres vaccins obligatoires pour les soignants, c'est une responsabilité employeur qui peut aller vers l'éviction du contact entre le soignant et des personnes fragiles, malades, vers des congés sans solde, voire effectivement ne plus leur permettre de travailler dans l'établissement. Mais vous savez, ma conviction profonde, c'est que la couverture vaccinale des soignants va augmenter. Je crois qu'il y a eu peut-être un peu d'attentisme, un peu de ras-le-bol aussi, peut-être un peu de mécompréhension vis-à-vis de l'impact de ce vaccin dans l'épidémie, et que cela va se régler. J'observe qu'en Italie, il a suffi de considérer que la vaccination serait obligatoire pour qu'on monte à 97% de couverture des soignants. Moi, je ne souhaite évidemment aucune sanction contre aucun soignant. Je suis leur ministre, je me sens appartenant à leur famille. Je veux pouvoir les convaincre. Je veux aussi qu'ils puissent être eux-mêmes sensibilisés à cette nécessité de se protéger et de protéger les patients qu'ils prennent en charge.
Il y a des entreprises de services aux personnes âgées qui proposent des primes pour que les soignants et les personnels se fassent vacciner. Ça fait partie des solutions, des primes, des cadeaux, des loteries comme aux États-Unis pour inciter les gens à se faire vacciner.
S'il n'y a pas de démarche à l'échelle du pays, pour, je dirais, encourager financièrement ou avec des lots la vaccination, nous accompagnons, et j'ai demandé aux agences régionales de santé de regarder avec beaucoup d'intérêt toutes les initiatives locales qui peuvent être prises par des associations, par du secteur privé, par des collectivités évidemment. Parfois, il y a des tombolas locales, parfois, il y a des dons de places pour des matchs ou pour des concerts, etc. Donc, on n'instaure pas un système national de valorisation de la vaccination, mais on accueille favorablement les mesures qui font sens, évidemment, et qui permettent d'encourager notamment les jeunes à se faire vacciner.
Et vous donnez une date, un ultimatum, 1er septembre, pour les soignants, par exemple, pour se faire vacciner cet
Encore été. Une fois, nous en sommes toujours au stade de la concertation à ce stade, donc je n'ai pas d'annonce à vous faire. Nous n'avons pas encore acté si la vaccination serait obligatoire ou non.
Vous le disiez tout à l'heure, 20% des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés. Pourquoi on n'arrive pas à les atteindre, ces personnes âgées?
Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes de l'assurance maladie et des agences régionales de santé font un boulot remarquable depuis des mois, depuis des semaines. Ils ont passé plus de 1,3 million d'appels téléphoniques. Et un appel téléphonique, c'est pas juste « souhaitez-vous faire vacciner ». J'ai assisté à cela, ça peut durer 20 minutes parfois, parce qu'il y a un travail de conviction, d'explication pour lever la peur. 1,3 million, ça a payé. Un certain nombre d'entre eux ont accepté de se faire vacciner. On a également envoyé plus de 3 millions de courriers, 3 millions de SMS, avec un numéro coupe-fil qui permet aux personnes âgées ou fragiles, lorsqu'elles reçoivent le courrier, d'appeler un téléphone où ils sont sûrs de tomber tout de suite sur quelqu'un et on va leur trouver un rendez-vous, parfois même dans l'heure, dans le centre le plus proche de chez eux. On envoie une ambulance, s'il le faut, aller les chercher, ou un taxi pour aller les chercher chez eux, gratuit, pour pouvoir les emmener au centre et ensuite les ramener.
Donc mais il en reste encore 1 sur 5, au bout de 6 mois de campagne vaccinale, qui n'a toujours pas eu la première dose.
Il reste un peu moins 1 sur 5 chez les personnes âgées, il reste 1 sur 4 chez les personnes qui ont des comorbidités. On observe que ça augmente. En un mois, on a augmenté de 15% la vaccination des personnes souffrant d'obésité, par exemple. Donc on continue de gagner du terrain. C'est un combat de tous les instants qui est mené par énormément d'équipes. Et je salue aussi le travail remarquable des associations. Il y a plus de 900 associations qui travaillent avec nous pour encourager la vaccination.
Et pour les plus jeunes, les enfants, les ados, on en est où? On en a vacciné beaucoup?
Un peu plus de 800 000, c'est-à-dire environ 15% des 12-17 ans. Dans les simulations que nous avons faites, nous espérons pouvoir dépasser les 30% de vaccination. Donc on est plutôt sur un bon rythme. Beaucoup de gens ont compris. Puis vous savez, il y a le pass sanitaire pour voyager en Europe, pour emmener ses enfants lorsqu'ils ont plus de 12 ans, les emmener dans un festival ou les emmener dans un salon. C'est beaucoup plus pratique de les vacciner que de leur imposer aux pauvres pitchounes à chaque fois des tests PCR ou antigéniques. Donc la vaccination décolle aussi chez les plus jeunes. Mais
et on y pense pour les moins de 12 ans, vacciner les moins de 12 ans?
Pour l'instant, nous n'avons pas les études suffisamment solides pour pouvoir le faire. Mais on sait qu'il y a environ 20% dans les études, dans les enquêtes d'opinion, il y a environ 20% des Français qui disent « moi, je ne veux pas me faire vacciner. J'ai peur, je ne crois pas au vaccin, je ne vous fais pas confiance, je ne crois pas au Covid, etc. » Et il y a environ 10 à 15% des Français qui disent « moi, je vais me faire vacciner, je suis prêt à le faire, mais pas tout de suite. » Je le ferai quand il y aura plus de recul, ou je le ferai, ou pourquoi je me ferai vacciner, puisque tout le monde autour de moi est vacciné. Ces personnes-là, elles doivent vraiment comprendre que c'est le moment, au contraire, d'aller se faire vacciner. Elles ne sont pas réfractaires, elles savent qu'un jour ou l'autre, elles franchiront le pas, elles se feront vacciner. C'est ces personnes-là. Et d'ailleurs, on voit ces personnes-là arriver dans les centres de vaccination. On a une augmentation sensible des arrivées sans rendez-vous. Hier, j'étais dans un grand centre, Paris La Défense Arena. 10% des gens qui se présentent n'ont pas de rendez-vous, ils sont pris tout de suite. Et hier, nous avons fait quasiment 230 000 primo-injections, ce qui est beaucoup plus que ce que nous avions réalisé les semaines précédentes. Et le nombre d'appels pour prendre des rendez-vous augmente.
Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, veut étendre l'usage du pass sanitaire à certains commerces, par exemple. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, Olivier Véran ?
Il faut comprendre une philosophie générale. Lorsque nous avons eu des vagues épidémiques, nous avons dû fermer l'ensemble, vous le savez, des commerces, des bars, des restaurants, des discothèques, des lieux de culture et des lieux sportifs pour toute la population, pour sauver des vies. Aujourd'hui, la vaccination change la donne. Ce que nous disent les scientifiques, c'est que si nous avions une vague épidémique très forte, avec un impact sanitaire réel, le fait de fermer tous ces lieux pour tout le monde n'aurait pas plus d'impact sur l'épidémie que de le fermer pour les seules personnes non vaccinées. On entre là, évidemment, dans un débat qui est différent des débats que nous avions auparavant. À la fois la volonté de ne pas ostraciser, de ne pas fracturer, de ne pas diviser,
c'est
de
ça,
ne pas
le risque.
Opposer.
C'est la fracture de la France entre les vaccinés et les non vaccinés.
Et en même temps,
couper la France
en
deux.
Temps, il serait extrêmement compliqué d'expliquer à des Français vaccinés qui ne pourraient plus accéder à ces lieux-là, ou d'expliquer à des restaurateurs, ou d'expliquer à des gens qui tiennent des lieux de culture, qui ne pourraient plus rouvrir si la situation devait l'exiger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je rassure tout le monde, parce que on ne veut pas qu'il y ait deux publics différents, avec un public qui pourrait y aller, un public qui pourrait pas y aller. Moi, ce que je regarde, c'est où est l'éthique? L'éthique, elle n'est pas d'empêcher tout le monde d'accéder à des lieux pour protéger une partie. L'éthique, elle est de faire en sorte de proposer à tout le monde la vaccination, de garantir la protection à tout le monde dans les meilleures conditions, et si la situation devait l'exiger, ne plus imposer une fermeture à tout le monde. Donc ça fait partie du débat, ça fait partie de la réflexion. Et pourtant, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la question moi-même, à titre personnel, du pass sanitaire, en disant que je n'étais pas favorable au pass sanitaire pour les lieux de la vie courante, en dehors des grands événements. Mais la vaccination, encore une fois, cette vaccination importante, elle change forcément le cadre de la réflexion.
Depuis le début de l'épidémie, plus de 100 millions de tests de dépistage de la Covid-19 ont été réalisés en France. Des tests gratuits, hein, on est presque une exception dans le monde. Ça coûte cher, hein, 2 milliards d'euros l'an dernier. Ça devrait nous coûter 5 milliards, hein, à la Sécu cette année. Ces tests, ils vont continuer à être gratuits en France pour tout le monde?
D'un point de vue sanitaire, quand vous êtes dans une épidémie qui redémarre, avec une augmentation du nombre de cas, moi, je préfère garder un outil de mesure qui soit le plus concret, le plus efficace possible et le plus territorialisé possible. Je préfère savoir que dans telle commune de 300 habitants, on a fait le diagnostic de 15 cas positifs et que je vais pouvoir envoyer les équipes de contact tracing, vous savez, du testé, alerté, protégé, pour aller isoler tout le monde et vérifier qu'il n'y ait pas d'extension de l'épidémie. Je préfère cela plutôt que de perdre sur ces 15 malades deux ou trois parce que le test coûterait cher pour eux et qu'ils ne souhaiteraient pas se protéger. Donc, et après, je comprends parfaitement la réflexion qui consiste à dire, lorsque c'est de l'usage de, entre guillemets, de loisirs pour accéder
par exemple,
aux
discothèques ce soir qui rouvre.
Oui. Pour accéder
c'est
à
la Sécu qui va payer ce test.
Pour le moment, oui. Pour le moment, nous restons sur des modalités de remboursement de prise en charge. C'est aussi la solidarité nationale. C'est une réflexion que nous aurons à terme, une fois que nous aurons proposé la vaccination à tous les adultes, comme nous y sommes engagés avant la fin de l'été, et comme nous le ferons.
La réouverture des boîtes de nuit, elle tombe pas très bien, finalement, avec ce variant Delta qui repart en France.
D'abord, c'est pas la réouverture des boîtes de nuit, c'est la réouverture de 30% des discothèques. Parce que 70% ne pouvaient pas appliquer le protocole sanitaire parce qu'il est strict. Ensuite, il y a une jauge qui est appliquée et surtout, nous avons le fameux pass sanitaire. C'est-à-dire que charge, et là je le dis très clairement, charge aux discothèques de vérifier la validité du pass sanitaire des personnes qui rentreront.
Mais vous diriez ce soir à un jeune, vous avez 20 ans, allez vous amuser en boîte de nuit, le masque n'est pas obligatoire, allez-y.
Je dirais aux jeunes, s'il a son pass sanitaire, il sera entouré de gens qui ont un pass sanitaire également et qui doivent leur permettre de pouvoir faire la fête en discothèque. Maintenant, je le dis, il y aura des contrôles. Il y aura des contrôles. Et si il devait y avoir un cluster, ça apparaîtra comme le nez au milieu du visage. Ça apparaîtra comme le nez au milieu du visage. Si sur 500 jeunes, vous en avez ne serait-ce que 5 ou 10 qui sont positifs après une soirée dans une discothèque, on saura faire le tracing et remonter. Donc il y aura des contrôles et des sanctions le cas échéant. Donc nous faisons non pas un pari, mais nous avons beaucoup travaillé, et Bercy, Alain Griset, Bruno Le Maire ont beaucoup travaillé avec les acteurs du monde de la nuit pour leur permettre une autorisation. Vous savez, ça fait près d'un an et demi qu'ils n'ont pas ouvert, qu'ils n'ont pas travaillé. Donc, avec les conditions strictes de rouverture, ça justifie qu'on puisse le faire. Mais on sera très très vigilants et s'il fallait évidemment revenir en arrière parce que les choses se passaient mal, eh bien nous prendrions nos responsabilités.
Olivier Véran, est-ce que l'état d'urgence sanitaire sera prolongé au-delà de la date du 30 septembre qui est fixée pour l'instant ?
Alors nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire, en réalité, depuis le mois de juin. Nous sommes dans ce qu'on appelle un régime transitoire de sortie d'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire c'est un système qui ne nous permet pas, par exemple, de prononcer un couvre-feu ou un confinement, mais qui nous permet de prendre des mesures nationales ou localisées pour protéger les Français si la situation épidémique le justifiait. Si nous avions besoin d'un texte de loi, par exemple sur la vaccination obligatoire des soignants, nous pourrions alors envisager d'en profiter pour prolonger les dispositions. Le Parlement avait souhaité limiter le plus possible, et je ne le critique pas, je le constate, à la fois les outils de lutte contre l'épidémie et à la fois la durée d'activation de ces outils par le gouvernement. La situation aujourd'hui est différente de celle que nous connaissions il y a un mois avec ce variant Delta.
Encore une question, Olivier Véran, avant d'aller au standard pour écouter nos auditeurs. Un tout autre dossier qui pose question en ce moment au gouvernement, c'est celui des retraites. Est-ce qu'on a des pistes? Est-ce qu'il y aura des annonces la semaine prochaine? On attend Emmanuel Macron, a priori d'ici le 14 juillet. Est-ce qu'on avance? Est-ce que c'est le bon moment pour cette réforme des retraites?
Ce que je peux vous confirmer, et ça répondra totalement à la question que vous m'avez posée, et vous comprendrez pourquoi, c'est que le président de la République va s'exprimer prochainement. Et donc, nous aurons, vous et moi, les réponses aux questions qui se posent légitimement. Donc, non, mais plus sérieusement, le débat sur les retraites, il est un débat qui est légitime. Il a été mis sur la table, vous le savez. Il y a eu plusieurs interventions par le président de la République lui-même, sans qu'aucune décision ni orientation ait été annoncée à ce stade. Nous verrons dans les tout prochains jours si le contexte épidémique, modifie le cadre de réflexion ou non.
Est-ce que vous aimeriez vous occuper de ce dossier des retraites?
Moi, je n'ai jamais renoncé à m'occuper d'un dossier, même quand il est compliqué, ça ne vous aura pas échappé.
Olivier Véran, on va tout de suite au standard, puisque Martine nous a appelé. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Inter, bonjour monsieur.
Je voudrais
féliciter monsieur Véran, parce que franchement, dépenser autant d'énergie pour que nous soyons tous épargnés par ce mode virus, merci à lui. Merci, merci, merci. Alors déjà, je voulais poser une question aussi. Pourrait-il nous répondre sur la durée du vaccin? Jusqu'à quand sommes-nous protégés évidemment, on est vacciné. Pendant combien de temps?
Jusqu'à quand, Olivier Véran? Quelle durée pour ces vaccins?
D'abord, permettez-moi de remercier Martine, parce que ces remerciements vont droit au cœur et vont me faire la journée.
Parfait.
Non, mais je fais une toute petite incursion et après je répondrai évidemment à la question. Vous savez, Martine, depuis un an et demi, on a demandé énormément d'efforts aux Français. On leur a demandé de rester chez eux, on leur a demandé de porter des masques, on leur a demandé de se tester, on leur a demandé de renoncer à leurs activités professionnelles, de renoncer à leurs loisirs, de renoncer à l'activité sportive. Certains auraient pu imaginer que les Français auraient craqué. Ça a été le cas dans certains pays. Moi, j'ai constaté, jour après jour, le courage, la solidité, l'abnégation, la résilience, la force, finalement, collective des Français. Je le dis sans démagogie, parce que ils ont été solides et qu'ils ont été vraiment à la hauteur. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et le courage de notre peuple, depuis le début de cette épidémie, fait qu'on a sauvé beaucoup de vies et que c'est cela aussi qui nous porte quand on est en gestion de crise. C'est de voir le courage des Français, ça nous rend nous-mêmes peut-être aussi un peu courageux.
Et la durée
pour vous répondre sur la durée de l'efficacité vaccinale, ce qu'on sait à ce stade, c'est que quand on regarde 6 mois, 8 mois, 10 mois après la vaccination, le taux d'anticorps dans votre organisme, si vous avez été vacciné, reste à un niveau élevé qui confère une bonne protection. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un débat sur une troisième injection possible, c'est-à-dire un nouveau rappel de vaccin pour venir booster, enrichir, renforcer l'immunité des personnes qui sont vaccinées.
Pfizer demande l'autorisation pour une troisième dose cette nuit.
Ce qui semble commencer à faire consensus sur le plan scientifique, ce serait un nouveau rappel chez des personnes dont l'immunité à la base est très fragile, ou parce qu'elles sont très âgées, ou parce qu'elles sont porteuses de maladies. On fait déjà d'ailleurs des troisièmes injections dans notre pays à des gens qui sont immunodéprimés. C'était le comité d'Alain Fischer qui l'avait recommandé. Donc on commencera plutôt par ce type de réflexion-là, avant de se poser la question d'une vaccination en population générale. Je n'ai absolument pas la réponse à ce stade. Je vous dis, moi je me focalise plutôt sur les personnes très âgées, très fragiles. Je constate que les études sont plutôt très encourageantes en ce qui concerne l'immunité générale de la population générale, même des mois et des mois après.
Olivier Véran, est-ce qu'on peut partir en vacances cet été à Barcelone ou au Portugal ?
Oui, on peut, puisque nous avons ce qu'on appelle un pass sanitaire européen. Moi, je l'ai, vous l'avez peut-être, si vous êtes vacciné d'ailleurs. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez vacciné.
Il me manque une dose.
Il vous manque une dose. Mais alors, vous l'aurez. Très important, la deuxième dose. Une seule dose ne confère pas un niveau de protection suffisant. Vraiment.
On peut partir au Portugal ou à Barcelone, mais
il y a votre rappel de vaccination, trois semaines à huit semaines après. Je vais vous embêter, mais vous pourrez disposer d'un ce qu'on appelle un QR code, ou sur du papier ou sur votre téléphone portable, et vous pourrez le présenter si on vous le demande à la frontière, si vous prenez l'avion, etc. Et vous pourrez voyager en Europe dès lors que vous avez cette couverture vaccinale. C'est une coordination européenne.
Votre collègue Clément Beaune le déconseillait hier parce que le variant Delta là-bas se propage très vite.
Sur le site du ministère du Quai d'Orsay, vous avez la liste des pays qui sont classés, rouge, orange, etc. Encore une fois, en Europe, on a ce système de passe sanitaire qui permet cette circulation aux personnes qui sont vaccinées, qui sont protégées. Je vous dis que c'est le message qu'il faut retenir. Donc, pas de panique pour les Français qui ont réservé des vacances en Espagne, au Portugal ou ailleurs. Dès lors qu'ils ont le passe sanitaire, qu'ils sont habilités à y circuler, nous les laissons évidemment circuler.
Je voudrais vous interroger aussi. Ah ben, on a Marie-France au standard. Bonjour Marie-France.
Oui, bonjour.
Je vous en prie, posez votre question.
Voilà, ma question. Je suis médecin généraliste sur la région lilloise, très active depuis un an et demi, très fatiguée même. J'ai réussi à faire vacciner nombre de mes patients grâce au CHR dès le mois de février, surtout mes comorbides. Donc j'ai vacciné beaucoup de patients. Certains de mes patients voulaient que ce soit moi qui les vaccine. Donc quand je faisais des permanences dans les centres de vaccination, je les faisais venir. J'ai fait moi-même ma liste de patients non vaccinés. Là, je les recrute, j'en ai une trentaine, mais je n'ai pas de dose. Ces gens veulent se vacciner avec moi. Je n'ai pas de dose. J'ai de Moderna au mois de juin. Je vais avoir un petit flacon cet après-midi. J'étais très ravie en début de semaine de recevoir de l'IRPS qu'il y aurait une ouverture de la possibilité de retrait en centre de vaccination de flacon Pfizer. Je suis allée il y a deux jours au centre de vaccination. Personne n'est au courant. J'ai appelé l'IRPS qui me disait on va se renseigner. J'ai appelé. Alors l'ARS, c'est pas la peine. Hein. L'ARS Hauts-de-France, c'est un bon cœur. Hein. Impossible de téléphoner depuis un an et demi. Personne ne décroche.
Alors Olivier Véran va vous répondre. Marie-France, il y a pénurie pour les médecins ?
Je reconnais d'abord dans l'énergie de Marie-France l'énergie du médecin de terrain qui se bat avec nous et je comprends parfaitement que chaque frein qu'elle ait sur le parcours de la vaccination la fasse enrager. Je partage cela évidemment. Marie-France, plusieurs points. D'abord, 50% des doses de Moderna envoyées aux médecins généralistes ont été utilisées. Ça veut dire qu'il y a encore pas mal de médecins généralistes qui ont des doses de Moderna. L'un des freins, et je le comprends, c'est que les flacons de Moderna, c'est 10 doses. Et c'est très compliqué de convoquer 10 patients à la fois. Et les médecins n'ont pas envie de jeter des doses à la fin de la journée. J'ai donc demandé aux pharmaciens de commencer à préparer des seringues monodoses, c'est-à-dire qu'ils extirpent eux-mêmes des flacons de vaccin une dose qu'ils pourront ensuite donner dose à dose aux médecins libéraux qui travaillent avec eux. Ça, c'est quelque chose qui va changer la vie des médecins qui le souhaitent. Deux, oui, il y a des réouvertures de commandes possibles et on passe par les centres parce que tous les centres ont des quantités de vaccins. Si l'information n'est pas passée dans tous les centres, vous avez permis d'améliorer le passage de l'information et en rentrant au ministère, je vais m'assurer que le message soit repassé absolument à tout le monde. Donc ça, ce sont des messages. Et puis, vous allez pouvoir recevoir dans les prochains jours, vous m'avez dit que vous avez fait vous-même votre liste de patients non vaccinés, vous allez recevoir de toute façon par l'assurance maladie la liste de vos patients qui n'ont pas encore été vaccinés. Merci de faire ça parce que c'est à vous que les Français font le plus confiance et quand vous faites ce travail-là, vous prenez le temps de le faire, ça fonctionne. J'ajoute un dernier point, vous pouvez aussi convoquer vos patients en centre et aller les vacciner vous-même en centre si c'est plus pratique, entre guillemets, si vous avez 50 patients, comme vous l'avez dit, ça peut être aussi une solution. On va simplifier tout ça, si ça marche pas, vous m'appelez directement, vous verrez que je suis pas un bunker.
Marie-France, vous notez, vous appelez directement le ministère. Olivier Véran, j'ai une dernière question à propos de l'ouverture de la PMA, la procréation médicale assistée à toutes les femmes, y compris donc aux célibataires et aux couples de lesbiennes. Le Parlement l'a voté. Quand est-ce que les décrets d'application vont sortir ?
Le Conseil constitutionnel a été saisi, il doit répondre. Dès qu'il a répondu, on promulgue la loi. Et moi, j'ai demandé à mes administrations de préparer en temps masqué les décrets d'application pour qu'on puisse, comme je m'y suis engagé, lancer les premiers parcours de PMA dans les toutes prochaines semaines.
Les semaines, cet été.
C'est quelque chose qui va arriver. Ouais. Dernier petit truc, pardon, je me permets une incise parce que je suis aussi ministre des Solidarités. Parce que j'ai annoncé une bonne nouvelle hier aux associations.
Absolument.
12 millions d'euros de renfort pour les associations qui font de la distribution d'aide alimentaire. Et par ailleurs, on généralise pour des milliers et des millions de familles précaires un dispositif génial qui a été expérimenté dans notre pays pendant 5 ans, qui s'appelle Manger Malin, qui permet aux familles pauvres avec enfants de faire leurs courses dans les supermarchés normaux avec des bons de réduction qui leur permettent d'acheter des produits comme n'importe qui et de les payer moins cher à la fin.
Ah bah prix.
Donc
c'est
on continue
Malin.
De développer aussi les solidarités dans notre pays dans la période.
Merci beaucoup Olivier Véran, ministre des Solidarités donc et de la Santé. Merci d'avoir accepté de dialoguer avec les auditeurs de France Inter. Bonne journée.
Merci.
France Inter.